Thème 3. Histoire du quotidien. Sujet d'étude. Vivre et mourir pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Donc tout d'abord, quelques rappels généraux pour qu'on puisse situer un petit peu les événements. Donc cette Seconde Guerre mondiale va se dérouler du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945. Elle touche l'Europe et le Pacifique. Elle va se terminer tout d'abord en Europe, avec l'armistice qui est signé le 8 mai 1945, et elle se terminera un peu plus tard dans le Pacifique, avec la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, après l'utilisation par les Américains des deux bombes atomiques début août à Hiroshima et Nagasaki. Cette guerre oppose d'un côté ce qu'on appelle les forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon, et de l'autre côté, les alliés. Donc ces alliés se composent du Royaume-Uni, de l'URSS à partir de juin 1941, des États-Unis à partir de décembre 1941, et la France dite libre, c'est-à-dire la France résistante du général de Gaulle. Cette Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l'histoire, puisqu'il a fait entre 50 et 70 millions de morts. C'est une guerre totale. C'est-à-dire que les États orientent leur économie, leur culture, leurs moyens humains en direction de la guerre. Et elle va impliquer aussi bien les combattants que les populations civiles. On estime que la moitié des victimes pendant ce conflit sont des civils. Alors tout d'abord, on peut aussi rappeler les différentes phases de ce conflit, quelques étapes. De 1939 à 1941, c'est ce qu'on appelle la période de victoire de l'Axe avec la guerre éclair. De 1941 à 1942, c'est le tournant de la guerre, puisqu'on assiste au premier coup d'arrêt de l'Axe et aux premières victoires, on va dire, des Alliés. Et de 1943 à 1945, c'est un changement de situation, puisque ce sont les victoires de la Grande Alliance qui aboutiront à la victoire finale. Donc, aujourd'hui, dans ce grand 1, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux conditions de vie des combattants, et c'est donc ce grand 1 qui s'intitule Vivre et mourir en combattant. La problématique est assez simple. Quelles sont les différentes expériences de guerre vécues par les combattants? Donc en classe, on a travaillé à travers des exemples vidéo et en particulier sur l'opération Barbarossa. Ici, c'est la généralisation. Donc petit 1, l'Europe et le monde dans une guerre de mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Seconde Guerre mondiale est une guerre mécanisée. On a recours aux chars, aux avions, à une flotte de guerre très importante. Et elle se déroule sur de grandes distances, avec des fronts nombreux, le front russe, le front africain, etc., etc. Et des fronts qui se déplacent très très vite. Il y a peu de tranchées comme pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce que ce sont des guerres marquées par des offensives éclairs, où on utilise comme tactique un appui aérien. Les avions vont bombarder. Tout d'abord les lignes ennemies, puis les chars d'assaut se lancent à l'attaque. Donc c'est ce qui fait la particularité de cette Seconde Guerre mondiale, une guerre de mouvement. On peut identifier deux grands types de combattants. Tout d'abord, des combattants au sein des armées régulières. Donc ce sont les populations qui sont mobilisées dans les armées des différents États. Ce qui est important de préciser, c'est que pour la première fois également, les femmes vont combattre de manière massive, en particulier dans l'armée soviétique, où 800 000 femmes sont engagées. On a à côté de ces armées régulières, la Wehrmacht, l'armée allemande par exemple, l'armée britannique, etc., l'armée américaine avec les GI. On a ce qu'on appelle une armée de l'ombre. Ce sont donc en général des civils qui s'organisent pour résister à l'occupation ennemie. On peut citer par exemple l'action de Jean Moulin en France, qui va permettre de fédérer ces combattants de l'ombre sous l'autorité du général de Gaulle et donner naissance à ce qu'on va appeler les forces françaises de l'intérieur. Ces combats sont des combats qui sont gourmands en hommes et qui n'échappent et qui n'épargnent pas les civils. Donc on l'a vu avec ces batailles extrêmement meurtrières qui vont faire des milliers et des milliers de morts. C'est une guerre qui se caractérise également par l'absence de distinction entre le front et l'arrière. Par conséquent, de nombreux civils sont tués dans les bombardements, dans les attaques. On l'a vu par exemple avec la bataille de Stalingrad. Mais aussi en raison des crimes de guerre perpétrés par les nazis. Les civils qui sont mitraillés pendant leur fuite, les représailles et les exécutions d'otages. Bon. Cette guerre totale est une guerre en fait d'anéantissement. Et c'est la raison pour laquelle les victimes sont aussi nombreuses. On le voit, les nazis ne mènent pas uniquement une guerre de conquête, ils mènent une guerre idéologique. Leur objectif est la conquête d'un espace vital destiné à la race aryenne. Du moins, c'est ce que souhaitent réaliser les nazis. Et c'est pour cela que lorsqu'ils lancent leur attaque en direction de l'Est, ils veulent éliminer toute présence étrangère, à savoir juive à leurs yeux, mais aussi slave, pour constituer un espace vital pur dédié à la race aryenne qui pourrait par la suite prospérer. Donc on est bien dans une guerre idéologique qui est une guerre d'anéantissement.